Bonsoir à tous et soyez bénis. Soyons bénis. En Israël, j'ai appris à... Voilà, vous m'entendez? C'est bon? Voilà, merci. Nous avons passé 3 mois en Israël avec mon épouse, de janvier à fin mars, et nous avons appris une phrase qui veut dire « soyons bénis », qui veut dire « Sheni Barech Kulanu » en Israël. Donc « soyons bénis, soyez bénis ». Voilà, c'est toujours avec beaucoup de joie que je viens visiter les frères, les sœurs, ceux qui m'invitent. Plus fort ? Oui. Pas trop près. Bon, voilà. Je ne suis pas un spécialiste du micro, excusez-moi. Pas trop près. Bon. Alors. Voilà, donc je suis heureux d'être parmi vous pour partager bien ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur il y a maintenant 3 ans. Voilà, donc il revient très très bientôt. Alors je vais développer un peu tout cela. Je voudrais dire tout d'abord que je suis né dans un foyer croyant. Mes parents étaient croyants évangéliques. Et nous étions 9 enfants. Et nous avons été enseignés sur les bancs de l'école du dimanche, les 9 enfants. Et même la monitrice venait à la maison pour partager bien la parole avec nous. Et un jour, je devais avoir peut-être 6-7 ans. Et la monitrice nous raconte une histoire et elle nous dit « Vous savez quoi, les enfants ? Un jour, le Seigneur va revenir. Et il prendra avec lui tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui ont cru en lui. » Et ce sera extraordinaire. Alors on était avec des yeux en train de la regarder, en train d'écouter. Et à un moment donné, j'ai posé une question. J'ai dit, mais j'ai monitrice. Et ceux qui n'auront pas cru en Dieu? Et là, elle nous dit, eh bien, ceux qui n'auront pas cru, eh bien, ils attendront le jugement. Et ce jour-là, il y aura de grandes catastrophes. Imaginez, dans un avion, le pilote, à ce moment-là, qui sera enlevé. Imaginez les passagers s'ils ne connaissent pas Dieu. Ou dans un train, celui qui conduit le train, enlevé. Imaginez ceux qui sont dans le train et qui ne croient pas en Dieu. Donc voilà, toutes ces grosses catastrophes. Bon. Et j'ai grandi dans ce foyer. Et le Seigneur m'a souvent appelé. Et je lui répondais, « Seigneur, pas maintenant, demain, j'ai pas le temps, j'ai trop à faire. » Et mon enfance a passé, mon adolescence. « Seigneur, pas maintenant, j'ai trop de choses à faire, j'ai un match de foot, j'ai tout plein de choses à faire, j'ai pas le temps, on verra plus tard. » Et j'arrive à ma jeunesse, et je suis au régiment. Et toujours pareil. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai trop à faire. Jusqu'au jour où, donc j'avais 18 ans, j'étais au régiment. Et j'ai eu un accident, j'ai été brûlé. Donc j'étais dans un bureau, on a versé du produit comme ça en rigolant, des copains à moi, sur moi, sur l'uniforme. Et comme ça en rigolant toujours, eh bien, avec un briquet, l'étincelle est partie, ça s'est enflammé, j'étais une torche vivante dans ce bureau, je sautais dans tous les sens. C'était très dur et très douloureux. Et à un moment donné, j'ai crié, j'ai dit « Non, pas maintenant !» Et là, à ce moment-là, quelqu'un est passé devant la porte du bureau avec une serviette de bain sur le dos. Et quand il a vu ce qui se passait, il est venu sur moi, il a arrêté le feu avec sa serviette. Et j'ai été hospitalisé à l'hôpital des brûlés, c'était sur Pau. Et la première nuit, où j'ai été hospitalisé, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vécu le retour du Seigneur. Alors imaginez, donc, le garde du jour, de la semaine, qui passe réveiller tout le monde, rassemblement sous le drapeau pour faire l'appel, etc. Et là, j'entends, donc c'est dans le rêve, j'entends, « Oh, vous avez entendu ce qui s'est passé à tel endroit ?» Et vous avez vu, il manque tout plein de personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis telle catastrophe à tel endroit, et telle catastrophe à tel autre endroit. Et là, je me souviens, tout d'un coup, de ce que la monitrice nous avait raconté quand j'étais tout petit. Et je dis, non, ah non, ah non, Seigneur, non. Et là, je commence. Alors, vous ne pouvez pas imaginer la terreur dans laquelle je me trouve. À cet instant, je me dis, mais non, j'ai dit, quel insensé j'ai été. Je savais, on m'avait prévenu. Et combien de fois le Seigneur m'a appelé? Et j'ai dit, non Seigneur, pas maintenant, on verra plus tard. Et maintenant c'est trop tard. Et dans mon agitation, je tombe du lit, je me réveille, je cours à la fenêtre, et je me rends compte que ce n'est qu'un rêve. Je tombe au pied de mon lit, je demande pardon au Seigneur, et je lui donne mon vie, je lui donne mon cœur, je lui donne ma vie. Et ma vie a complètement changé du jour au lendemain. J'étais en train de très mal tourner. Et voilà, le Seigneur a fait de moi un autre homme. Et j'ai décidé, depuis ce jour, depuis l'âge de 18 ans, de marcher dans ses voies. Sauf que... Et voilà, j'avais 18 ans, le Seigneur n'est pas revenu de suite. J'en ai 52 maintenant. Et je me suis découragé. J'étais, un bon chrétien. Je me suis rapidement marié, j'ai eu 4 enfants, Dieu a béni. Mais rapidement, je suis tombé dans une routine religieuse. Alors je suis devenu quelqu'un de religieux. J'avais bien des responsabilités dans la communauté où nous étions. Mais je supportais pas d'être un homme à deux visages. J'avais... à l'intérieur de la communauté, une attitude, voilà, une manière d'être. Et à l'extérieur, j'étais un homme d'affaires. Alors, voilà, donc dans mes affaires, j'étais pas très honnête. Et bien souvent, lorsque le Saint-Esprit me reprenait, je le faisais taire. Je dis, oh, je dis, c'est pas grand-chose ça. Et une fois, et deux fois, et trois fois. Et puis un jour, jusqu'au jour où je n'ai plus entendu la voix de l'Esprit. Alors j'étais livré à moi-même, tout en ayant des responsabilités au sein de la communauté où j'étais. Et un jour j'ai dit, c'en est terminé. J'ai pris du recul, j'ai dit, Seigneur, il faut vraiment que tu agisses dans ma vie. Et le Seigneur a commencé à faire son travail. Le jour où je lui ai dit, vas-y, fais-le, Seigneur. J'avais essayé par mes propres moyens. Je pensais qu'en fait, c'était pas possible d'être un homme droit devant Dieu, en marchant les deux pieds sur cette terre, et je me disais, un jour le Seigneur fera ce miracle, le jour où il reviendra. Bon. Mais non. Je me suis mis à part, et le Seigneur un jour m'a présenté quelqu'un qui a pu m'aider dans ce parcours, et ma vie a commencé de nouveau à changer. Et j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, rétablis mon oreille interne, pour qu'à nouveau, je réentende la voix de l'Esprit pour me laisser conduire chaque jour. Et voilà, et ça a commencé comme ça, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et figurez-vous que dans ma vie, tout plein de choses ont commencé à changer. Alors dans mes affaires, plus de compromis, plus rien. Et puis ça a commencé comme ça, et je disais, Seigneur, quoi qu'il m'en coûte, je veux faire ta volonté. Quoi qu'il m'en coûte, je veux faire ta volonté. Et j'avançais comme ça, et j'avançais comme ça. Et le Seigneur bénissait, jusqu'à il y a 3 ans de ça. Un jour, nous étions à table avec mes enfants et j'ai commencé à prier donc, pour le repas, pour que le Seigneur bénisse les aliments. Et je dis, Seigneur, je prie et je termine la prière en disant, et Seigneur, à très bientôt de te voir face à face. La première fois, ça n'a surpris personne. Mais imaginez, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, chaque fois, et avec les amis dans la communauté où nous étions, chaque fois qu'on se retrouvait, je terminais la prière en disant « Eh Seigneur, à très bientôt de te voir face à face ». Alors des questions ont commencé à fuser, alors mes enfants qui allaient voir leur mère en disant « Mais qu'est-ce qu'il a, papa? Il est malheureux, il veut partir, il veut nous quitter, il veut mourir ». Et moi je disais « Mais non, pas du tout les enfants ». J'ai dit « C'est écrit que pour tous ceux qui ont cru en lui, eh bien un jour nous le verrions face à face, alors je m'y prépare ». Et voilà, donc tout simplement, non, je suis très bien avec vous, voilà. Et puis au bout du 3e mois, un jour, mon épouse qui en avait assez d'entendre ça aussi, bon, voilà. Alors elle me disait, Manu, tu devrais essayer, quand tu termines la prière, voilà, tu pries comme tu as l'habitude, mais surtout, voilà, tu essaies, tu ne dis plus, à très bientôt de te voir face à face. J'ai essayé, et rien à faire, ça sortait de mes entrailles, c'était impossible. Alors à force, eh bien, un jour, elle me dit « Bon, il faut qu'on parle tous les deux. » Je dis « Voilà, à force de t'entendre dire que tu veux partir, eh bien, je ressens que le Seigneur va te reprendre. Alors voilà, nous allons parler de choses pratiques. Alors voilà, je ne suis pas une femme d'affaires, donc eh bien, tous nos biens, je vends. Dès que le Seigneur te reprend, et voilà, donc je donne tout ça aux enfants, etc. » Donc voilà. Bon, moi j'étais un peu surpris, j'écoute, je ne sais pas si le Seigneur va me reprendre demain, mais écoute, s'il me reprend, bien, tu te laisseras conduire à ce moment-là. Et juste après ça, elle me dit, par contre, je voudrais te poser une question, est-ce que tu es sûr d'avoir rempli la mission pour laquelle le Seigneur t'a mis sur cette terre? Alors ça faisait, on avait un parc locatif, on vivait de ça à l'époque. Et puis je dis, écoute, Bébo, ça fait 7 ans que, voilà, le Seigneur nous a bénis, il nous a donné ce parc locatif, on vit de ça. Et quand je lui ai demandé qu'il nous donne ça, j'ai dit, Seigneur, permets que je devienne autonome financièrement pour que ce temps libre que ça va, qui va te générer, eh bien, je puisse te le consacrer, te servir. Bon, ça fait 7 ans, je lui dis, il n'y a rien, j'y puis. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais je lui dis quand même, j'écoute, mais si le Seigneur veut me confier une mission, ça ne pose aucun problème, ce sera vraiment avec plaisir. Et bon, on s'endort. Et ça, c'est le dimanche soir. Le mercredi, je suis sur un chantier avec mes 2 garçons et puis un ami à eux. Et voilà, donc je suis sur un engin en train de... Voilà, on refaisait une maison. Et je devais nettoyer tout autour de la maison qu'on était en train de construire. Et il y avait tout plein de ronces, d'arbres, etc., en fait, de pousses d'arbres. Et donc, avec l'engin, je commence à nettoyer. Puis, à un moment donné, c'était tellement impressionnant, c'était tellement épais que quand on faisait un passage dans toutes ces broussailles, ça faisait comme un tunnel. Alors, à un moment donné, mon fils, qui était avec moi dans la cabine, dit « Papa, attends, je vais prendre l'appareil photo pour prendre quelques photos, tellement que c'est impressionnant. » Il faut avoir quelques souvenirs. Bon, alors je le laisse descendre. Et pendant qu'il descend, je dis, bon, je vais continuer un peu plus. Alors je me mets à avancer un peu plus. Et à un moment donné, je sens des ronces qui m'attrapent le bras, qui commencent à m'accrocher le bras. Et bon, une fois, deux fois, et à un moment donné, je m'arrête et je regarde jusqu'à la hauteur de la porte de la cabine qui est ouverte. Et je regarde, il y a un énorme essaim de frelons. Alors, c'était la première fois que je voyais ces bestioles-là. Ce sont des frelons d'Asie. Et ça grouillait de partout. Et là, je viens de comprendre ce que c'est qui m'avait piqué le bras. Et au moment où je suis en train de réfléchir de ce qui est en train de se passer, il y a une branche à peu près de 5 cm de diamètre qui se libère de la roue arrière de l'engin et qui vient frapper de plein fouet sur l'essaim de frelons. Qui explose les seins et les frelons s'engouffrent dans la cabine. Alors vous pouvez imaginer un petit peu le scénario. Alors j'étais en t-shirt, en short, c'était le 10 septembre, donc il faisait très chaud, il était 16h de l'après-midi, et j'avais une casquette, j'ai commencé à bouger la casquette dans tous les sens, Et imaginez-vous, mes deux garçons, un de mes garçons, le premier qui était dans la cabine, était parti chercher l'appareil photo, et celui qui était derrière la cabine, avec son copain, il s'était mis à l'arrière pour être protégé des ronces, parce que c'était tellement impressionnant. À un moment donné, ils ont entendu comme un hélicoptère qui se crachait sur nous. Ils se sont accroupis tellement que c'était impressionnant le bruit que ça faisait. Et quand ils ont vu qu'à un moment donné, j'ai dû crier les frelons, frelons, donc ils sont partis en courant, tellement que c'était impressionnant le bruit que ça faisait. Ouh, ça fait comme ça. Et moi, j'ai essayé de sortir de la cabine, je me suis frayé un passage, tant bien que mal, dans les ronces, et rapidement, j'ai senti mon énergie qui me quittait. Je me roulais par terre, c'était atroce. J'avais l'impression, pour donner un petit aperçu des douleurs, j'avais l'impression d'être transpercé par des boules de feu. C'était atroce. Et rapidement, donc, mon énergie me quitte, et bon, je me sens tout flagada, et entre-temps mon fils arrive et donc quand il voit la scène, donc j'ai un t-shirt, imaginez, rempli, criblé de frelons, elle me dit, alors Jonathan me dit, papa, enlève le t-shirt parce que tu vas en emmener partout, bon, tant bien que mal, j'ôte le t-shirt et je voyais qu'une chose, c'était m'allonger sur un endroit, un carrelage frais, alors je lui dis, amène-moi dans la maison au frais. Donc ils appellent les secours et rapidement donc je perds connaissance. Ma tension a chuté très rapidement. Et en fait, voilà, je suis resté à peu près 4 heures. J'ai connu une mort clinique de 4 heures. Donc tout le monde s'agitait autour de moi. J'étais en quelque sorte bien mort dans les bras de mes enfants. Et les secours m'ont mis dans le fourgon du SAMU. Et à un moment donné, voilà, donc on devait me faire une injection de dernier recours. Et au moment où j'ai senti cette injection, je me suis vu partir à une vitesse incroyable contre un mur noir. Et j'étais allongé donc sur le brancard à l'intérieur du fourgon. Et c'était tellement violent que j'ai hurlé de surprise et de violence quand j'ai vu la violence. J'ai fait « Ah !» Et tout d'un coup, je suis arrivé sur ce mur, j'ai franchi ce mur, et là, oh, une lumière éblouissante. Oh, tout cet effet de violence s'arrête, et là, mes amis, ce n'est que du bonheur. Wow. Et là, je contemple, je vis ces moments intenses, et je me dis, waouh, c'est trop beau, c'est trop bon. Et là, je sens cette lumière qui me remplit, qui me réconforte. C'est vraiment que du bonheur. Et à un moment donné, je commence à parler en langue, à réciter le psaume 23. Et je dis, et dire que je disais à mes garçons, il faut que vous donniez votre vie au Seigneur, parce que ça serait trop dommage de passer à côté de tout ça. Et moi, j'y suis. Et là, je commençais à savourer ces instants. C'était extraordinaire. Et au milieu de cette lumière, je sentais une présence, et cette présence remplissait ce lieu, et c'était trop bon. Alors à un moment donné, je commence à me déplacer comme dans la pesanteur, dans cette ambiance, hein. Et je sens à un moment donné, j'entends cette voix qui communique avec moi, et j'entends cette voix qui me dit, « Bon, tu voulais connaître quelle était ta mission ?» Alors, je suis tout oui. Eh bien, voilà. Tu ne vas pas rester. Tu vas redescendre et tu vas prévenir mon peuple que je reviens très, très bientôt. Tous ceux qui se sont éloignés, qu'ils reviennent. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, parce que je reviens très, très bientôt. Alors, moi, je dis, mais Seigneur, j'ai ton peuple, il sait que tu reviens très, très bientôt. Je comprendrai peut-être, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais... qui mieux que ton peuple sait que tu reviens très très bientôt ? Et là, il me répond, mon peuple ne m'attend pas. Mon peuple ne se réjouit pas de ma venue. Les soucis de la vie vous voilent ma face. Et là, à un moment donné, donc, il m'amène un peu plus loin et en fait, je vis quelque chose d'extraordinaire. Je suis comme un vase et Et en fait, je reçois tout plein de choses, comme un vase qu'on remplit. Et à un moment donné, alors c'est tout à fait cohérent sur le moment. Et je demande, je dis, mais pourquoi tout ça? Et là, il me répond, il me dit, cela te servira lorsque tu seras dans ta mission. Voilà. Et je me réveille donc sur mon lit, à l'intérieur du fourgon du SAMU, qui part à toute vitesse, donc en direction des urgences. Et mes amis, plus aucune douleur. J'avais un sourire jusqu'aux lèvres et il ne me tardait qu'une chose, c'était déjà de partager ce que je venais de vivre déjà avec les miens et à donner cette mission. Je suis resté 2 jours et demi à l'hôpital. Alors déjà, l'ami chez qui nous faisions les travaux était un médecin. Donc son épouse l'a appelé rapidement. Il est venu au plus vite qu'il a pu. Il est allé se renseigner auprès du chef de service où j'étais hospitalisé. Et ce chef de service lui a dit, écoutez, vous pouvez commencer à prévenir sa famille qu'il est très très mal. Donc il est resté trop longtemps avec une tension très très basse. Donc ce monsieur, bien au niveau cérébral, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc déjà qu'il se prépare. Par contre, c'est ce qu'on comprend pas, c'est qu'apparemment il a des propos cohérents. Donc ça on ne comprend pas. Mais par contre, il a un taux tellement important de poison dans le sang que qu'on attend d'un moment à l'autre que ce monsieur décède de cet empoisonnement. Je suis resté 2 jours et demi. Il me tardait déjà de sortir pour partager cette mission, pour dire à tous ceux qui pouvaient l'entendre que le Seigneur revient très très bientôt de s'y préparer. Alors quand le médecin est arrivé, à un moment donné, j'ai écouté, médecin, si vous ne me faites rien, laissez-moi repartir. Alors il était surpris, il me dit, écoutez, avec ce que vous venez de vivre, il dit, mais je vais voir mon confrère, je vais voir un petit peu si... Il est revenu, il dit, bon, s'il y a quelqu'un qui peut venir vous chercher, eh bien... Vous pouvez sortir. Il a dû se dire certainement, s'il a quelques heures à vivre, autant qu'il les vive avec sa famille. Voilà, et je suis là encore aujourd'hui. Ma vie, on va dire, est presque pareille. Je veux dire, rien, pas grand-chose a changé par rapport à mon état physique, si ce n'est que j'ai été complètement bouleversé de cette mission, de ce que je venais de voir et d'entendre. Et en fait, ma vie a basculé totalement. Ma vie n'est plus du tout la même. Et j'ai commencé, dès que je suis sorti le vendredi, le dimanche soir, je vis un moment intense dans ma chambre. Je suis visité dans la nuit et j'ai exactement une rétrospective de ce que je venais de vivre là-haut et une suite. Et en fait, la suite, c'était « Préviens mon peuple que je reviens très très bientôt », ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et tout plein de choses comme « Je permettrai l'épreuve et la maladie chez mes enfants pour qu'ils lèvent les yeux vers moi et ne se laissent pas surprendre de ma venue. » Et là, on peut faire un petit parallèle avec le verset de la parole de Dieu dans l'Évangile où il est dit « Si pour toi, ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le, parce qu'il vaut mieux pour toi que tu rentres dans le ciel avec un œil en moins plutôt que d'avoir les deux yeux et partir brûler dans le feu de la géhenne. Ça, c'est une chose. Ensuite, la dîme, l'offrande. Qu'en avez-vous fait ? La dîme, l'offrande, qu'en avez-vous fait ? Mes amis, nous sommes responsables de notre argent, parce que c'est le Seigneur qui nous le donne, et de la manière dont nous l'utilisons et dont nous le donnons. Chacun y répond, c'est le Seigneur qui nous demande ça. Donc chacun répond à cette question. Et ensuite, dis-leur que la prophétie de Joël, dans les derniers temps, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront, ils auront des songes, les vieillards auront des rêves. Sur mes serviteurs et mes servantes, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit. Il leur vient tout cela. Donc j'ai commencé à partager ces choses-là et j'entendais une voix qui me disait « Mets-toi à part, je veux parler à ton cœur. Mets-toi à part, je veux parler à ton cœur. » Et quelques jours après, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit « Bon, je vais m'isoler dans ma chambre, je vais débrancher le téléphone et voilà, je suis là pour personne. » Et dès le premier soir où je me suis mis à part, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, le Seigneur a permis que ma vie passe comme ça devant moi. J'étais le spectateur de ma vie passée. Et le Saint-Esprit est en train de me reprendre. Et écoutez bien. Et il me dit, tu vois ici, tu es passé un peu trop vite sur le pardon. Oh, pardon, Seigneur. Et ici, pardon, et ici. Ça a duré toute la nuit et une partie de la journée. Et je disais, mais ça finira donc jamais. Et pardon. Et là, un petit rappel. Purifiez-vous, sanctifiez-vous. Et là, je commence à comprendre. Et je refais cette prière. Et là, un petit rappel sur le passage dans les Écritures où il est dit « Lorsque tu te mets en colère, ne pêche pas. Et que le soleil ne se couche pas, que tu aies réparé, que tu aies réglé ces choses-là, afin de ne point donner accès au diable. » Alors moi, je commençais à réfléchir en moi-même, j'ai dit « Mais attends, Seigneur, entre le moment où le soleil se lève et le moment où il se couche, les occasions que j'ai de pécher, alors j'ai plus qu'à tenir un registre. » Et puis, tout noter, de manière à ce que quand j'arrive le soir au coucher du soleil, surtout que je n'oublie rien, pour être sûr de ne point donner accès au diable. Alors j'ai fait cette prière, j'ai dit, Seigneur, rétablis mon oreille interne, pour que j'entende à l'instant T le Saint-Esprit que tu as placé en moi, chaque fois qu'il me reprendra pour me dire « Oh, attention Manu, là, il y a un piège. Oh, pardon, mes yeux, mes oreilles, mes pensées, pardon. » Et mes amis, c'est extraordinaire. C'est un frère qui parle à des frères et sœurs. Je ne suis pas serviteur de Dieu, je suis juste un messager. Et je peux vous dire, à un moment donné, je pensais, pendant que j'étais dans les rangs, comme nous tous, dans les rangs des croyants, je pensais que ce n'était pas possible d'être pur et saint en marchant sur cette terre. Je me disais, le jour où le Seigneur reviendra, en un clin d'œil, nous serons transformés et à ce moment-là, nous serons purs et saints. Faux. C'est un mensonge de l'ennemi. Il m'a menti pendant des années. Et si vous êtes dans cette situation, je peux vous dire qu'il vous ment aussi. Et nous avons quelques passages dans la parole de Dieu, je ne vais pas les lire, je vais donner quelques références. Par exemple, lorsque Dieu s'adresse à son peuple, il lui dit « Soyez saints comme je suis saint, moi, votre Dieu. » Pensez que s'il n'était pas possible qu'un homme soit saint, le Seigneur, l'Éternel, nous aurait demandé de l'être. Un peu plus loin, on a le psalmiste. Psaume 17, il dit, Éternel, si tu sondes mon cœur pendant la nuit, tu n'y trouveras rien. Sous-entendu, rien d'impur. Donc c'est possible. Alors, il faut se rappeler quand même d'une chose très importante. Lorsque les disciples étaient avec le Seigneur, juste au moment où il soit enlevé, ils ont dit, mais Seigneur, tu ne vas pas nous quitter. Comment on va faire sans toi? Il lui a répondu, il vous est avantageux que je m'en aille, car vous recevrez le Consolateur, le Saint-Esprit, et lui vous conduira dans toute la vérité, mes amis. Vous êtes, et nous sommes, des surhommes, des surfemmes, si nous voulons fonctionner, marcher dans cette vie de tous les jours sans le Saint-Esprit. Le Seigneur nous l'a donné. Et si nous considérons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, eh bien à ce moment-là, le Saint-Esprit habite en nous. Et est-ce que vous concevez que le Saint-Esprit puisse habiter dans un temple qui n'est pas pur, qui n'est pas saint? Je peux vous dire qu'après, il n'y a plus aucun compromis qui est accepté. Je prends mon exemple parce que je suis un frère comme vous et je suis quelqu'un de très très simple, merci Seigneur. Et donc je partage comme une exhortation avec des frères et des sœurs. Figurez-vous que le Saint-Esprit est là pour nous conduire tous les jours dans toute la vérité, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Et chaque fois que, eh bien, parce que voilà, le Seigneur a dit, vous pécherez, mais ne restez pas dans le péché. Et le Saint-Esprit est là pour nous mettre en garde. Si nous laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie, être notre conducteur, être celui qui va nous conduire, nous guider dans toute la vérité, chaque fois que nous allons pécher, il va nous montrer aussitôt. Et si nous repentons aussitôt, eh bien l'ennemi n'aura aucun accès. L'ennemi n'aura aucun accès. Et alors là, on peut comprendre le psalmiste quand il arrive le soir. Imaginez, tous les jours, à chaque instant, à l'instant T, le Saint-Esprit vous reprend. Pardon. Eh bien, ce n'est pas difficile. Vous arrivez le soir, au moment où vous allez dans votre repos, le bilan est déjà fait. Vous êtes clean. Éternel, tu sondes mon cœur. Et lorsque je me présente devant toi, c'est avec un cœur pur et des mains pures. Parce que qui mieux que toi sonde les cœurs? Je peux vous mentir? Je ne peux pas mentir à mon Dieu. Il connaît tout de moi. Et je peux vous dire, mes amis, même dans les rêves, on peut pécher dans les rêves. Eh bien, le Saint-Esprit me réveille parfois en me disant, oh, attention. Donc, je ne suis pas réveillé, je rêve. Attention, là, tu vas pécher. Pardon. Et la porte est fermée, et l'ennemi n'a aucun accès. Eh oui. On sait que, scientifiquement, tout homme rêve. On se rappelle ou on ne se rappelle pas de nos rêves. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que personne ne peut maîtriser ses rêves. Eh bien, le Saint-Esprit nous conduit sur le chemin de la pureté, la sainteté, parce qu'il nous a été donné par notre Seigneur. Et quand il a dit, il vous est préférable que je m'en aille, parce que vous recevrez le Saint-Esprit, et lui vous conduira dans toute la vérité, c'est bien la vérité. Il a même dit, vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. Ça, c'est la vérité aussi. Le seul problème, si vraiment on veut connaître ces choses-là, mes amis, c'est que nous devons rentrer et marcher dans ce chemin de la pureté, la sainteté. Et un peu plus loin, il est dit, dans Hébreux 12, 14, « Soyez en paix avec tous et recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Le Seigneur vient chercher une église pure et sans tache, une épouse pure et sans tache. Il ne pourra pas faire de compromis. Donc, il nous demande, aux uns et aux autres, ceux qu'il aime, eh bien, de marcher sur ces voies-là. Également, quand nous avons passé 3 mois en Israël, janvier, février, mars, et... Donc, fin mars, nous avons terminé. terminé notre contrat avec l'agence juive qui nous avait engagé, on était sur le village de Nitsana, dans le désert du Negev. Et donc le 3 avril, nous devions être sur Jérusalem pour rencontrer notre fille, et nous devions partir le 5. Et regardez les coïncidences du Seigneur. Nous ne trouvions pas d'endroit pour se loger parce qu'il y avait des préparatifs pour la Pâque en Israël, Pessah, qui était quelques jours après. Donc tout était réquisitionné. Et un de nos amis nous a dit, un ami qu'on a connu sur place 2 jours avant, nous a dit, je connais quelqu'un sur Jérusalem, au centre-ville, et je vais l'appeler pour voir si Luc connaît quelqu'un pour éventuellement bien que vous héberger. Il l'appelle et lui dit, écoute, si c'est un couple, s'ils sont que 2 personnes, eh bien je peux les recevoir chez moi. C'est pas très grand, mais j'habite au centre-ville de Jérusalem. Et donc pour rencontrer leur fille, ils seront juste à côté, donc ça pose aucun problème. Bon, nous étions en Galilée, nous avons fait 2h30 de route pour arriver jusque chez lui. Et juste avant d'ouvrir la porte, notre ami Alon nous dit « Ah, en fait, Emmanuel, je t'ai pas dit, il a vécu une expérience similaire à la tienne et je lui laisse le soin de te raconter ce qu'il a vécu. » Waouh ! Alors je peux vous dire que ça me passe partout. Je dis « Waouh, Seigneur !» Et là, il raconte. Alors, on ne parle pas hébreu, on ne parle pas anglais non plus, mais on parle espagnol, puisque mon épouse est espagnole, italien et français. Et là, eh bien, ce monsieur parle en espagnol. Donc, on a le récit en live. Et il raconte. Donc, suite à un problème cardiaque, donc il a fait un arrêt cardiaque. Et il a connu une mort clinique de à peu près 5 heures. Et il s'est retrouvé en présence du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, il s'appelle Ariel. Ariel, tu ne vas pas rester avec nous. Tu vas redescendre et tu vas prévenir mon peuple que je reviens très très bientôt. Dis-leur bien que je ne viens pas chercher une prostituée. Je viens chercher une épouse sans tache, pure et sainte. Dis-leur bien que je reviens très très bientôt. Il dit, donc il a eu ça, donc c'était fin 2009. Il dit, depuis, ma vie a complètement basculé. Et je passe 10 mois sur 12 à sillonner la terre, partout où on m'invite, pour partager le message d'urgence. Il dit, et voilà ce que je rencontre. Des grosses structures m'invitent. Et les leaders de ces structures me disent, Ariel, le Seigneur ne doit pas revenir maintenant. Nous avons investi des milliards de dollars dans des campagnes d'évangélisation. Il doit y avoir un grand réveil. Il ne doit pas revenir maintenant. Les soucis de la vie vous voilent ma face. Et bien souvent, on peut s'imaginer, on imagine que comme on travaille pour Dieu, c'est son œuvre. Il va bénir, il va nous bénir. Et le Seigneur doit nous dire, remettez-moi la première place, car je n'y suis plus depuis bien longtemps. Premier des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Remettez-moi la première place, car je n'y suis plus depuis bien longtemps. Et un petit retour sur la parabole des 10 vierges. Ces vierges qui vont voir le Seigneur, qui toquent à la porte en disant « Mais Seigneur, Seigneur, nous avons fait de grandes choses en ton nom. Souviens-toi !» Et le Seigneur lui répond « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Alors nous pouvons être le plus grand des prédicateurs, le plus grand des missionnaires, le plus grand homme de Dieu. Si nous n'écoutons pas notre Dieu, Si nous ne le mettons pas à la première place, tout ce que nous faisons est en vain. Et ça ne tiendra pas devant notre Seigneur. Et voilà ce qu'il a rencontré. Et il nous dit, de structure en structure, rares sont les communautés qui disent, viens Seigneur, nous t'attendons, nous nous réjouissons de ta venue, rares sont ceux-là. Je vois ça aussi. Mais je vois qu'il y a des petits groupuscules un peu à droite et gauche qui a envie que notre Seigneur vienne et de se préparer pour être prêt. Et la troisième personne également, donc alors ça c'est carrément le 5 au matin, nous devions prendre l'avion, nous étions chez des amis à Jérusalem en train d'attendre le bus taxi qui devait passer nous prendre. Et juste au moment, peut-être une demi-heure avant, ils reçoivent une amie. Et donc Nelly, celle chez qui nous étions, fait les présentations. Elle dit, je te présente Bégonia. Et Emmanuel, c'est le frère qui a été piqué par 56 frelons. Et suite à une mort clinique, donc il a vu le Seigneur, il est revenu avec un message. Et quand elle dit ça, elle dit, oh, et vous savez ce que je viens de vivre il y a 2 jours de ça, j'ai rencontré un homme qui, suite à un accident de voiture, s'est retrouvé dans la présence du Seigneur, et le Seigneur de lui dire, Israël, cet homme s'appelle, et le Seigneur de lui dire, tu vas redescendre et tu vas prévenir mon peuple que je reviens très très bientôt. Et lui de dire, mais Seigneur, ton peuple sait que tu reviens. J'ai dit, moi, je t'attendais, donc ton peuple t'attend, donc il n'y a pas de problème. Et là, Seigneur de répondre, mon peuple ne m'attend pas. Mon peuple ne se réjouit pas de ma venue. Les soucis de la vie vous voilent ma face. Et voilà. Donc voilà, c'est le constat. Il faut que l'on se dise une chose, le Seigneur, notre Dieu, n'a pas donné son Fils unique en vain pour nous racheter. C'est vrai, il est dit qu'il va venir comme un voleur, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ceci dit, il nous prévient les uns et les autres, parce qu'il revient très très bientôt. Il veut que nous nous préparions pour sa venue, et nous n'avons plus de temps à perdre. Et je m'adresse aux jeunes, vous avez toute votre vie devant vous, mais votre vie ne vous appartient pas. Notre lendemain ne nous appartient pas. Bien souvent, les personnes me demandent, mais alors, dans combien de temps le Seigneur revient? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit arrêter nos projets? Emprunter, arrêter d'emprunter, arrêter de travailler? Non. On doit tout simplement se préparer. Une fois qu'on est prêt, on peut dire, Seigneur, tu peux revenir quand tu veux. Je suis prêt. Et je continue à travailler. J'ai repris à travailler. Avant, j'étais un petit rentier. Et puis, un jour, le Seigneur m'a dit, bon, ben, voilà, tu vas reprendre à travailler, tu vas vivre au jour le jour. Alors, devant moi, j'ai rien de certain. J'ai rien de certain. Avant, j'avais quelques économies. Et puis j'avais mon parc locatif où je savais que tous les mois ça tombait. Voilà, c'était une sécurité. Le Seigneur m'a dit, je suis ta sécurité. Voilà. Et le Seigneur veut travailler notre foi, veut faire grandir notre foi. Il nous a dit quand même dans sa parole, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Il dit même plus loin, la foi du plus grand nombre se refroidira, mes amis. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Nous n'avons plus de temps à perdre. Pour moi, le Seigneur revient tout à l'heure, revient de suite. Et je le remercie parce que je sais que chaque jour, j'ai l'impression qu'il me fait comme une injection de l'imminence de sa venue. Et quand j'entends des projets à long terme, à court terme, certains qui disent « Demain, je ferai ci » ou « Dans 6 mois, je ferai là. » Je me dis « Seigneur, tu seras déjà revenu. Donc des projets, on peut en avoir, comme je vous disais, mais l'essentiel, c'est d'être prêt. Et je m'adresse là aux enfants. N'ayez pas peur de la mort. Et puis, aux moins jeunes, n'ayez pas peur de la mort. Parce que celui qui est juste derrière, il nous attend les bras ouverts et ce n'est que du bonheur. Je peux vous dire, mes amis, je ne voulais pas revenir. Je suis revenu par obéissance. J'ai dit, Seigneur, bon, je reviens. Et aujourd'hui, je sais où est ma maison. Je suis ici sur cette terre. Je ne suis pas chez moi. Il ne me tarde qu'une chose, c'est de rentrer à la maison. Je suis aujourd'hui comme un poisson dont son élément, c'est l'eau, et que l'on a retiré de l'eau. J'attends qu'une chose, c'est qu'on ne me remette pas à l'eau, mais qu'on me remette auprès de mon Père. Voilà. Donc, soyez bénis et sentez-vous libre en toute liberté. Dans la parole de lui, il est dit dans Marc 16, 17, 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alors sentez-vous libre. C'est tout simplement en tant que témoin de mon Seigneur, messager de mon Seigneur, que je veux mettre en pratique la parole de Dieu. Et tout simplement, j'ai aucun pouvoir. C'est mon Dieu qui fait les miracles. C'est vers lui que vous approchez. Moi, j'obéis. Si vous demandez à ce que je vous impose les mains, eh bien, j'obéis à mon Dieu qui m'a demandé de le faire. Mais c'est lui qui fait, notre Seigneur. Et son esprit veut vous vivifier. Si vous êtes mal, si vous voulez être régénéré, il veut vous transformer, vous relever. Il veut que vous soyez prêts pour sa venue. Faites-lui confiance et tournez-vous vers lui et vraiment attendez-vous à lui parce que c'est un Dieu grand et puissant. C'est Dieu. Voilà. Soyez bénis.